Alors, bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici ce matin. Et j'aimerais vous confesser quelque chose, une faiblesse que j'ai. Une petite faiblesse que j'ai. Moi, j'ai un problème de personnalité qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous savez ce que c'est? Et quand c'est mon tour de prêcher, puis que les gens viennent me voir, puis ils me disent « Ah, je suis content, j'ai hâte de t'entendre », c'est pas une bonne nouvelle. Une espèce d'anxiété. Mais merci, merci. Hier soir, hier après-midi, j'étais en train de préparer la prédication, puis... J'ai traversé un moment d'angoisse que je traverse souvent dans ces situations-là, puis je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Ça m'a fait du bien, Michel, ce matin, quand tu as dit, tout le monde est ici pour une raison, même moi. Mais ce matin, je voulais juste vous faire remarquer que sur mon bureau, pendant que j'étais en train de travailler hier, je veux vous le partager, il y a quelque chose qui m'a réconforté. Il y a un papier qui traînait sur mon bureau, et puis j'étais en train de préparer le message, j'étais angoissé, j'étais troublé, et puis j'avais ça devant les yeux. Vous savez c'est quoi ça? Le 17... septembre 2017, j'ai été ordonné par la Bible parle comme étant pasteur de l'Église la Bible parle. Ça l'aide beaucoup mon trouble de personnalité de l'imposteur parce que il y a des gens qui ont signé, pasteur Jeff Lorrain, pasteur Réal Gaudreau, pasteur Claude Urteau, pasteur Richard Côté, pasteur Clermont Deschênes et pasteur Alain Pajot, m'ont reconnu comme étant un pasteur ordonné de la Bible parle. Ça me fait du bien. C'est comme si ces gens-là étaient là en arrière de moi puis qu'ils me disaient, « OK, Guy, on reconnaît que c'est ta place, là. » Ça fait vraiment du bien, ça. C'est sécurisant. Ça me donne le droit d'être ici. Fait que j'ai décidé que toutes les fois que je vais prêcher, je vais l'amener puis je vais le mettre dans le coin. C'est probablement sécurisant pour vous aussi. Parce que si jamais je dis des bêtises, ben ils sont encore là, eux autres. Puis je vous promets de m'assurer que c'est un honneur pour moi de faire partie, d'être pour eux ce qu'ils sont pour moi et de les encourager dans ce ministère qui est d'administrer l'Évangile. Quand Pasteur Réal m'a appelé pour faire la prédication mardi dernier, j'étais en train d'étudier certains documents parce que le Fellowship des Églises Baptistes vont faire une conférence en mai-juin sur l'éthique chrétienne et l'action sociale. Et puis, je suis en train d'étudier certains auteurs qui ont écrit sur l'éthique sociale, sur l'éthique chrétienne, c'est-à-dire. Et donc, j'étais en train de faire ça, puis j'étais en train de lire un document qui vraiment me touchait beaucoup, puis je me disais, la prochaine fois que je vais avoir l'occasion de prêcher, je vais amener ce sujet-là devant l'Assemblée. Et puis, à peu près dans le même moment, j'ai eu le courriel de Pasteur Réal. C'était un peu difficile d'être honnête devant Dieu puis de dire ben là je peux pas le faire parce que j'avais moi-même demandé à Dieu de fournir l'occasion de le faire. Le document que j'étais en train de lire, c'est un document, c'était sur Dietrich Bonhoeffer. C'est vraiment intéressant parce que il y a beaucoup de monde qui ont écrit sur l'éthique dans la modernité. J'ai un livre ici que j'ai chez moi que ça s'appelle Contemporary Evangelical Thought. Ça a été écrit par Carl Henry, qui est une sommité au niveau de l'éthique chrétienne, au niveau de l'enseignement chrétien. Et puis, dans ce livre-là, ben, il y a toutes les théologiens qui ont parlé au niveau de l'éthique et puis qui ont donné des idées. Puis, j'ai calculé qu'il y avait à peu près 350 citations d'hommes qui sont tous nommés à la fin du livre. Et ce livre a été édité en 1957. Puis, j'ai remarqué que Dietrich Bonhoeffer n'était même pas là-dedans, à aucun endroit. C'est intéressant. Dietrich Bonhoeffer est un théologien allemand, 1906 à 1945, bien que très respecté par ses pairs durant sa vie, eux-mêmes ne l'ont jamais reconnu comme un important penseur de leur époque. Il a laissé un certain nombre d'ouvrages dont certains ne sont pas terminés et souvent difficiles à lire, et de plus en plus déconnecté de nos contextes contemporains. Il est mort à l'âge de 39 ans dans une prison nazie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, au 21e siècle, il est lu plus que jamais. Depuis les années qui ont suivi son décès, il est devenu l'un des plus largement lus et respectés penseurs chrétiens. Une biographie de 600 pages est récemment sortie par Eric Metaxas. En 2012, à la 21e conférence théologique annuelle de Wheaton College, s'est faite avec le thème Bonhoeffer, Christ and Culture. J'aimerais vous citer G.D. Lawrence, qui a fait un exposé intitulé « Debt Together ». C'est un jeu de mots par rapport au livre que Bonhoeffer a écrit, qui s'appelle « Life Together ». L'idée du livre, c'est que le vivre ensemble passe par le mourir ensemble. Alors, je cite... Le prisonnier s'assoit sur un petit bureau et il écrit, bien qu'il soit emprisonné. Et il écrit, bien qu'il soit emprisonné, ses idées sont tout à fait libres. C'est ironique, puisque le temps qu'il passe en prison est devenu le plus productif de toute son existence. Ceux qui voulaient qu'il se taise lui ont donné la plateforme de laquelle sa voix se fait entendre depuis des décennies et se fera entendre dans des décennies à venir. Ce jour-là, le prisonnier esquisse les grandes lignes d'un livre qu'il écrira à sa sortie de prison. Le contour se concentre sur l'Église, l'Église telle qu'elle doit être après la guerre, l'Église comme elle doit l'être pour répandre la parole de grâce, l'Église telle qu'elle doit être après avoir si mal échoué dans sa tâche de vivre la Seigneurie de Christ. On se rappelle que ça a été écrit durant la Deuxième Guerre mondiale, puis l'Église allemande avait eu une grande division, les Églises allemandes avaient suivi le mouvement national-socialiste. Le prisonnier se concentre sur la nature même du peuple qui suit Jésus-Christ en définissant cette communauté. Il écrit une phrase qui rassemble tellement ce qu'il a cru et vécu dans le passé et ce qu'il espère vivre dans le futur. Les mots qui sont sortis et qui ont fini le trait de son crayon sont « L'Église est l'Église seulement lorsqu'elle existe pour l'autre. » Je répète, « L'Église est l'Église seulement lorsqu'elle existe pour l'autre. » J'ai trouvé cette idée-là vraiment intéressante dans le contexte de l'éthique sociale, de l'éthique chrétienne et l'action sociale. L'Église est l'Église seulement lorsqu'elle existe pour l'autre. Cette phrase est devenue l'une des plus fameuses phrases décrites par Dietrich Bonhoeffer. De nos jours, beaucoup soupirent pour une Église qui ne parvient pas à vivre pour les autres, échouant à la vraie communauté de Dieu sur terre, ne réussissant pas à vivre sa vocation dans le monde. Aujourd'hui, l'Église cherche une direction, des conseils pour comprendre c'est quoi sa mission, des conseils pour s'engager envers le monde, à l'Évangile de Jésus-Christ, pour engager le monde à l'Évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent un guide pour notre temps, celui qui peut encourager, inspirer l'Église à l'action fidèle. Aujourd'hui, beaucoup sont convaincus que Bonhoeffer a des choses à nous dire. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais vous parler ce matin. Cette phrase, j'aimerais la développer. J'aimerais qu'on puisse comprendre que dans ce sens, l'Église locale, la Bible parle, est une fraction de l'humanité dans laquelle la réalité de Christ prend forme. Dans notre société, dans notre culture, dans notre voisinage, dans notre travail, l'Église, la Bible parle, est la fraction, parce qu'on fait partie de l'humanité, on fait partie du monde, on est dans le monde, mais on est la fraction du monde dans laquelle la réalité de Christ se fait connaître. Ça, c'est spécial quand on considère cette identité-là. L'Église est l'être humain qui a été jugé, condamné, crucifié et a été ressuscité à une nouvelle vie en Christ. C'est la partie de l'humanité qui est en Christ, qui suit Christ dans sa vie et dans sa mort, et aussi dans sa résurrection. Alors la question, c'est vraiment intéressant, mais la question qu'on doit se poser, c'est comment devenir une église pour les autres? Comment devenir une église pour les autres dans notre réalité culturelle aujourd'hui? Quand Bonhoeffer a écrit cette phrase-là, il y avait une réalité culturelle qui était foudroyante, qui était impressionnante, c'était au cœur de la modernité, puis toutes les choses étaient en train de changer, puis une nouvelle idéologie est en train de s'installer, puis on croyait que maintenant, on venait de comprendre le sens de l'humanité, puis le monde était transformé par cette nouvelle idéologie-là. Puis aujourd'hui, on vit encore sur les conséquences de ce qui se passait au moment où Bonhoeffer a écrit ces choses-là. Et aujourd'hui, la réalité que l'on vit chaque jour est influencée par cette réalité-là. Mais maintenant, le monde a changé, le monde a évolué. Maintenant, on ne parle plus de modernité, on ne parle plus de post-modernité. On est en train de parler d'hyper-modernité. Pardon. Comment devenir une église pour les autres dans notre réalité culturelle aujourd'hui? Ça vous intéresse de comprendre ça? Notre union avec le Christ transforme l'Église dans sa vie communautaire et je vous propose d'examiner en profondeur trois arguments bibliques qui soutiennent l'idée d'une Église pour les autres. Pour comprendre comment s'effectue la transformation. Le premier argument biblique est anthropologique, il parle de la nature de l'homme. Le deuxième argument biblique est amartiologique, anthropologique du mot anthropos qui est le mot grec pour dire homme, puis logique c'est tout ce que quand on étudie, on met le mot logique à chaque fois qu'on étudie ce sujet-là. Puis on en fait une science. Alors, anthropologique, c'est la science de l'homme qui parle de la nature de l'homme. Amartiologique, c'est le mot grec amartia. C'est le mot pour péché. Alors, c'est la science qui parle de la chute et du péché. Et le troisième argument est christologique. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de nous et de Christ et la rédemption. Alors, le premier argument, ça parle de la nature de l'homme, la nature de l'humanité. L'intention de Dieu dans la création relationnelle, selon Bonhoeffer, est la communion. Quand Dieu créé la terre, il a créé l'homme d'une façon différente qu'il a créé les arbres, le soleil, les animaux. Et il y a eu une consultation, il y a eu une proposition qui a été faite, il y a eu une consultation, il y a eu une décision qui a été prise dans un conseil, puisque la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a une décision là qui a été prise, une décision corporative. Quand on parle de la Trinité, il y a une décision corporative qui a été prête, qui a été faite ensemble pour dire, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu voulait faire l'homme à son image? Pourquoi le faire différemment des autres créatures? Pourquoi lui donner ce statut-là de le faire à son image? Pour avoir une relation, pour avoir une communion avec lui, pour entrer en relation avec lui. Bonhoeffer parle aussi d'une autre idée qui est le sens de la liberté, qui est rationnelle, relationnelle. La liberté, elle est relationnelle. En effet, pour expliquer la notion de la liberté, il faut se tourner vers Genèse 2, qui décrit l'Éternel plaçant Adam et Ève dans le jardin. Au milieu de ce jardin se trouvent deux arbres, l'arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal. Les Écritures affirment simplement que le premier arbre, l'arbre de vie, se trouve au centre. Il n'y a pas d'autre interdiction, il n'y a pas d'autre discussion. L'arbre de vie se trouve au centre. Mais il y a un autre arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi cet arbre est dans le jardin? Bonhoeffer déclare que l'interdiction qu'Adam ne devrait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un acte gracieux de Dieu de donner à Adam la liberté d'être ce qu'il est. Dieu a fait une grâce à Adam spéciale de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal au centre du jardin parce qu'il lui donnait l'occasion d'être celui qu'il voulait être. C'est une grâce que Dieu a faite à l'humanité. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle-là, je trouve ça intéressant. En faisant cela, Bonhoeffer s'imagine que Dieu dit à Adam, « Adam, tu es qui tu es à cause de moi, ton Créateur. Alors, sois ce que tu es. Vous êtes une créature libre, alors maintenant, soyez libre. » C'est dans ce sens-là que l'homme a été créé. Donc, l'anthropologie de Bonhoeffer a donc pour noyau une vision de la vie dans laquelle Dieu et l'humanité vivent ensemble dans une union ininterrompue, une relation amoureuse qui est décrite comme la liberté pour les autres en exprimant une vision de la personne humaine en relation. Dieu, dans Genèse 2 et au début de Genèse 3, non, Genèse 2, Dieu est en relation avec l'humanité. On voit qu'il va dans le jardin, qu'il se promène, que Dieu parle avec l'homme, il y a une relation qui se fait. Dieu regarde l'homme, puis là, il réfléchit, puis il dit, c'est de la pure bonté que de regarder l'homme, puis de réfléchir, puis de dire, ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis là, il y a comme une action d'amour, de relation d'amour, de communion qui est présente naturellement, sans qu'il y ait de règles autour de ça, librement, qui est en relation avec Dieu, sans aucune contrainte. Tout est là, qui est présent. Bonhoeffer écrit que la liberté n'est pas une qualité qui peut être découverte, ce n'est pas une possession. Ce n'est pas quelque chose à offrir, ce n'est pas un objet, c'est une relation avec l'autre. Dans la création, dans Genèse, l'anthropologie de Bonhoeffer dit que la liberté, c'est la relation, avec, la libre relation avec Dieu. J'habite dans une région de Laval qui est assez. J'habite à côté d'un métro, le métro quartier. Puis donc, c'est assez populeux. Il y a quelques années, j'avais l'habitude de me lever tôt puis d'aller dans un parc qui est tout près de chez nous, qui s'appelle le Parc des Prairies. Et dans ce parc-là, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça super beau. C'est assez grand. Il y a des étangs avec des canards. Mais c'est un peu comme Central Park à New York. Là, c'est un parc là qui est vraiment. T'es dans le bois, mais t'es entouré des routes, le métro. Puis, fait que le matin, quand t'arrives à 5 heures, ben, tu vois les oiseaux se lever, tu as l'impression vraiment d'être en campagne, tout ça. Puis plus le temps avance, plus tu entends la ville qui se réveille autour, puis tu entends les autos, puis les ambulances, puis les criards. Puis quand tu arrives à 6h, 6h30, 7h, là, on sent vraiment qu'on est entouré de la ville. Là. Mais avant ça, tout le monde qui se lève le matin, là, le lundi, pour la frénésie, puis aller porter les enfants en garderie, puis embarquer dans l'auto, puis partir. Puis tout ça, on sent que c'est présent. Là. Puis là, un matin, je me suis levé, puis j'ai vu quelque chose qui me parlait un peu de la liberté. Je marchais tranquillement, puis je voyais au loin, puis c'était difficile à voir parce que il y avait deux personnes qui étaient là, un qui était assis, l'autre qui était comme à plat ventre. Fait que là, je me suis assis, je me suis assis dans les branches, ils ne m'ont pas vu, je les ai regardés, puis je les ai observés pendant à peu près une demi-heure. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il était tout habillé avec des vêtements de camouflage. Je disais, ah, ils prennent ça au sérieux, eux autres? Puis là, quand je regarde leur âge, là, je les situe entre 70 et 80 à peu près. Puis là, il y avait une espèce de. Je ne sais pas si on peut appeler ça un appareil photo, là, mais il y avait un canon qui était à peu près ça de long au bout de ça, qui était branché juste là. Puis là, les autres étaient assis, puis ils observaient. Là. Puis c'était tranquille, on entendait les oiseaux. Puis les autres étaient dans leur bulle. Ils étaient en relation avec la nature. Puis. En les observant, je m'apercevais que le monde se réveillait autour de moi. Puis moi, je checkais l'heure parce que moi, il fallait que j'aille travailler aussi. Mais là, je les voyais, eux autres, qui n'étaient pas du tout influencés par ça. Puis là, j'ai vu, c'était un homme et une femme. La femme, je l'ai vue, à son âge, se mettre à ramper sur le rivage, dans la boîte. Puis là, normalement, quand je raconte cette histoire-là, il y a des gens qui l'ont déjà entendu. Je me mets à terre, puis je la mime parce que ça m'a vraiment impressionné. Mais je ne le ferai pas. Je sais que je suis filmé, là. Mais j'ai vu cette femme-là qui s'est mise à quatre pattes, puis qui s'est mise à avancer, puis qu'elle a avancé dans l'eau. Elle va se mouiller, mais elle a avancé dans l'eau, puis là, elle a tiré la main, puis elle a donné juste un petit coup sur un bout de bois. Puis là, le petit bout de bois, il est allé en direction d'un canard qu'il y avait vers le centre. Puis là, le bout de bois, ça faisait des ondes, là, comme ça. Puis là, lui, il a pris une photo, deux photos, trois photos, quatre photos. Il y avait une scène, là. Puis ces gens-là étaient complètement libres de tout ce qui se passait à l'extérieur. De tout, probablement que c'était des retraités, parce que eux autres, ils n'allaient pas aller travailler cette journée-là. Ils étaient complètement libres. Et dans ce sens-là, Adam et Ève, dans Genèse 2, étaient libres. Le deuxième argument qui nous est présenté dans la Bible, c'est qui parle de cette réalité-là, de l'Église pour les autres, c'est la chute et le péché. La science du péché affirme que la rébellion d'Adam et Ève, un renversement se produit. La chute a remplacé l'amour de la relation par l'égoïsme. Cela a donné lieu à une rupture de la communion immédiate avec Dieu et même de la communion humaine. Avec ce changement de direction, toute l'orientation spirituelle de l'humanité a été modifiée. Le résultat est dévastateur. Les humains ne vivent plus une vie commune avec Dieu et avec le prochain. La vie commune dans l'être des autres, mais maintenant, chaque individu vit dans l'isolement. L'humanité est devenue piégée par le soi, et donc plus dans une relation ininterrompue avec Dieu le Créateur. La principale conséquence, qu'est-ce qui arrive à Genèse 4? Qu'est-ce qui arrive à Genèse 4? Il y en a qui le savent par cœur. Le meurtre. Wow! On est loin de la relation dans le jardin, là. Caïn et Abel sont là. Premièrement, il y a un média qui est introduit dans la relation avec Dieu. On lit dans Genèse 4 là, que Caïn et Abel ont fait un sacrifice. Alors, ils ont introduit, il y a un médium qui a été introduit entre Dieu. La relation n'était pas directe, elle se faisait au travers d'un sacrifice. Alors, on a perdu l'immédiateté de la relation. Puis la deuxième, on a perdu la communion. En fait, la communion avec l'autre, elle est détruite. Quand vous lisez Genèse 4, c'est foudroyant de voir la manière dont Caïn s'est débarrassé d'Abel. Un réflexe meurtrier, il a tranché la gorge. Luther appelle ça cor curvum in se. C'est une phrase que Bonhoeffer va répéter souvent, qui vient de Luther, qui explique un peu cette situation qui s'explique par cor curvum in se. Ça veut dire quand ton cœur se recourbe sur soi-même. En fait, quand tu t'imagines la situation, c'est monstrueux, c'est comme un être qui est courbé sur lui-même, puis qui a le nez dans son nombril, puis qui n'est pas capable de sortir de là. Ça, c'est le résultat de la chute de l'être humain. Il est malheureusement devenu comme Dieu. Lui-même, c'est Dieu n'est plus au centre, c'est lui-même qui décide pour sa propre survie ou vie. La chute a tué l'humanité parce que les gens sont devenus comme Dieu. Le Christ, le troisième argument que je vous parlais, le temps avance, le troisième argument que je vous parlais, c'est le Christ et la rédemption. Nous arrivons à la manière dont l'humanité est libérée du cœur recourbé sur lui-même pour être libéré une fois de plus pour les autres. Bonhoeffer décrit l'Église comme l'Église pour les autres. Il en vient à sa définition la plus claire de Jésus. Jésus, c'est l'être humain pour l'autre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, c'est Dieu qui s'incarne pour l'autre. C'est ça qui donne le sens. En tournant vers cet argument, nous voyons qu'il affecte notre manière de concevoir l'Église, car la question qui nous concerne est comment la forme du Christ, l'être humain pour les autres, se concrétise-t-elle dans le monde? Comment le monde peut-elle voir Christ dans sa réalité? Ça se produit lorsque la forme du Christ, l'être humain pour les autres, prend forme dans l'Église. C'est à cette compréhension de la relation entre Jésus et l'Église que nous tournons maintenant. Bonhoeffer n'interprète pas les paroles. Paul, à plusieurs reprises, mentionne que l'Église est le corps de Christ. Bonhoeffer n'interprète pas ça comme une simple métaphore. Il comprend plutôt ceci comme une déclaration de la nature même de l'Église et de sa relation avec le Christ. Jésus, l'être humain pour les autres, est vraiment présent dans la collectivité de l'Église. Le Christ existant comme Église, là où se trouve le corps de Christ, le Christ est vraiment. L'Église est la présence du Christ de la même manière que Christ est la présence du monde. Comment sommes-nous une Église pour les autres? À la lumière de ce qui vient d'être dit, comment pouvons-nous, ici la Bible parle, être une Église pour l'autre? À ce stade-ci, j'aimerais ça vous inviter à ouvrir un texte des Écritures dans Marc 2, 13 à 18, 13 à 15. Je vous propose juste de faire, dans les minutes qui nous restent, je vous propose juste de faire un bref survol de ce passage-là, qui est un peu une photographie de Jésus qui est en train d'agir dans sa communauté il y a 2000 ans, à Capernaum, pas très loin de chez lui, et comment il agissait avec les gens. Et puis après ça, je vais faire le parallèle, comment la même chose se produit au travers de son Église ici. Alors, le texte dit, une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. La foule venait à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de payage, et il lui dit, « Suis-moi. » C'est intéressant, hein? Il n'a pas dit, « Je t'invite à me suivre, si ça te tente. » Il a dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui. Et car ils étaient nombreux à le suivre. Vous voyez Jésus agir? Je vais juste relever quelques observations, peut-être 5 ou 6 observations de ce texte-là, et voir si Christ fait la même chose au travers de son Église aujourd'hui. Parce que ma proposition originale, c'est comment devenir une Église pour Christ, puis dans mon développement, ma proposition originale change, et comment nous sommes une Église pour les autres. Premièrement, au début, on voit que Jésus alla une nouvelle fois s'en aller du côté du lac. Alors, Jésus avait l'habitude de se rendre à un endroit précis avec une adresse précise. Sur la rue du lac, mettons, on va dire. Puisque c'est ça que le texte nous dit. C'est-à-dire que Jésus avait une présence régulière et permanente et constante dans ce lieu-là. Comme nous avons une présence ici dans notre ville de Laval et dans la province de Québec, on a une adresse précise, on a un lieu où la présence de Christ est assurée. Il y a un frère de l'association qui me disait que comment il trouvait que c'était intéressant notre bâtiment, puis comment c'était le fun qu'on ait un beau bâtiment comme on a aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Tu sais, j'y disais que ça a été fermé pendant 6 mois. Pendant on est 6 mois qu'on a arrêté, à peu près. Ah, c'est donc dommage. Là, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça? Bien, on est allé dans le gymnase. Ah, bien, c'est pas pareil dans le gymnase. Bien, je dis, bien, oui, non, j'ai dit, t'aurais dû voir, à un moment donné, il y avait un Africain qui était là, puis ça bougeait, puis ça chantait, puis l'atmosphère était là, puis je pense qu'il n'y a pas personne qui a souffert trop d'avoir été à l'extérieur de ça. Alors, Christ est présent au milieu de nous. Il y a une autre observation que je fais, c'est que sa présence était remarquée et fort appréciée par les habitants de Capernaum, parce que les gens, à chaque fois qu'ils venaient, les foules venaient à sa rencontre. Alors, il y a vraiment, puis lui, il les enseignait. Alors, c'est vraiment intéressant que Christ, aujourd'hui, en 2018, fait encore les mêmes choses, que les gens se déplacent, viennent à l'église ici, viennent rencontrer Jésus et ils reçoivent son enseignement. Vous savez, quand je m'occupais un peu de l'accueil, à un moment donné, j'ai fait une statistique informelle. J'ai calculé à chaque dimanche, combien il y avait de nouvelles personnes. Alors, je ne considère pas s'ils venaient d'une autre église, visiter, ou s'ils venaient pour la première fois. Je ne considère pas s'ils étaient accompagnés par quelqu'un de la famille. Il faut juste voir quelqu'un qui venait pour la première fois. Puis là, une semaine, il y en avait 4, l'autre semaine, il y en avait 2, l'autre semaine, il y en avait 8. Alors, j'ai fait une statistique, puis je suis arrivé à la conclusion que chaque église ici, il y a... Chaque année, à l'église, la Bible parle, il y a 750 personnes qui visitent l'église pour la première fois. Alors, ça ne dit rien de s'ils reviennent, ça ne dit rien de... ça fait juste vous dire que les gens se déplacent pour entendre Jésus. Les enfants sont enseignés. Vous savez, moi, je suis un aumônier, je travaille dans une prison et je rencontre régulièrement des gens qui arrivent à la prison, sont en situation de crise, ils viennent de s'apercevoir que c'est la première fois qu'ils ont une sentence, une menotte aux mains, ils sont amenés, puis là, ils demandent à rencontrer l'aumônier. Puis, honnêtement, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est très rare, c'est pas rare, c'est-à-dire, que je rencontre pas une femme qui est capable de me chanter la Bible, qui est capable de me dire que dans sa jeunesse, elle est allée à l'école du dimanche, puis qu'elle a reçu la semence de la parole de Dieu, puis que ces choses-là, elle a grandi, puis sa vie s'est détériorée, puis dans la prostitution, dans toutes ces choses-là, puis là, tout à coup, arrive dans une situation providentielle, moi j'appelle ça providentielle, parce que son cœur est prêt, puis elle vient s'asseoir dans mon bureau, puis elle accueille Christ dans sa vie. Il y a une semence qui a été portée. L'action de Christ, de l'enseignement, est faite ici tous les matins, tous les dimanches matins, pardon. Alors, si vous cherchez une vocation, si vous cherchez une vision, si vous cherchez à savoir si vous êtes un évangéliste, si vous avez une douceur, Puis si vous avez une patience avec les enfants, puis que vous détestez faire du porte-à-porte, allez voir Alain pour vous inscrire comme moniteur. Parce que c'est une occasion d'être le Christ pour ces enfants-là. Jésus, qui a remarqué Lévi sur son chemin pour se rendre au lac, lui adressa la parole en l'appelant à le suivre. Jésus a appelé un homme qui est un collecteur d'impôts, qui est un pêcheur, oui, mais spécialement pour les Juifs. Daniel, ça n'a rien à voir. J'ai un ami, Daniel, qui travaille pour Revenu Québec. Ce n'est pas ce genre de collecteur d'impôts-là. Là. Mais qui est un collecteur d'impôts, qui est un genre, qui est une personne qui est détestée par les Juifs à ce moment-là, pour toutes sortes de raisons que je ne veux pas entrer dans les détails. Puis Jésus a vu, dans sa condition, a vu cet homme-là, pécheur, puis il l'a appelé à le suivre. Est-ce que Christ fait ça? J'ai envie de vous parler d'une des périodes les plus sombres de ma vie, qui s'est passée il y a environ 5 ans, puis certaines personnes qui sont ici ont été témoins de ça. C'est quand... un soir à l'église, j'ai donné ma démission comme pasteur. Et il y avait 150 personnes de l'église qui étaient présentes, des gens avec qui j'ai grandi dans la foi. Ça faisait 35 ans qu'on était à cette église-là. J'étais un des pasteurs de cette église-là. Et je suis venu à la conviction que j'avais échoué dans mon rôle de pasteur et j'ai demandé à l'Église de se présenter. Puis les gens se sont présentés parce qu'ils nous aiment, affectueux. Puis j'ai donné ma démission, puis on a quitté l'Église dans les circonstances qui étaient extrêmement douloureuses pour nous. Et j'ai sérieusement réfléchi pour me dire que le ministère, c'était terminé pour moi. Puis alors que je suis allé dans une retraite à l'abri aux États-Unis pendant un mois de temps, ma femme a commencé à venir à l'église La Bible parle, en bicycle. Et puis, quand je suis revenu, elle m'a dit, ça avait l'air de, on va aller à cette église-là, cette heure. Puis elle a dit, puis tais-toi. J'étais content. J'étais content, mais avec le temps, les gens ont commencé à m'appeler Pasteur Guy. Parce que c'est l'habitude ici. Hein. Moi, j'étais un petit peu mal à l'aise. J'avais un malaise avec ça. Michel le sait. Puis des fois, j'allais au conseil, puis je disais, j'étais un peu. J'ai dit, le saviez-vous que je viens à La Bible parle parce que les gens, ils ne savent pas que je suis pasteur? Fait que là, ils disent, ah, OK, on comprend. OK, on va faire attention, Pasteur Guy. Mais vous savez, ça, là, c'est Christ. C'est l'action de Christ. De regarder un homme indigne comme Lévi, comme Guy, puis de dire, toi, là, suis-moi. Ce que Dieu a fait au travers de la personne de Matthieu, parce que Lévi, c'est Matthieu, est incalculable. Quelqu'un peut me dire l'impact, quelqu'un peut mesurer, calculer l'impact qu'un homme comme Matthieu a pu avoir sur l'humanité, sur le christianisme. Son évangile, combien de personnes ont compris la grâce de Dieu au travers de son... C'est comme, ma question, c'est, y a-t-il un moyen de le calculer? Y a-t-il des scientifiques là, qui ont une manière de calculer ça? Moi, je trouve ça incalculable. Je trouve qu'il y a une grâce de Dieu de restaurer des hommes comme Guy, comme Lévi. Puis ça, c'est Christ qui fait ça, à travers l'Église. Je vais terminer par une... Je m'excuse. Je vais arrêter là. Je vais terminer par une illustration que je trouve importante de vous dire. Ça s'est passé il y a environ 5-6 ans quand on est allé visiter notre fille. Moi et Maryse, on a une fille qui est missionnaire. Puis à ce moment-là, elle était en Argentine. Et puis, on se retrouvait dans un orphelinat en banlieue de Buenos Aires. Qui a une église qui est jumelée à ça, puis que les églises autour, quand on dit l'église pour les autres, dans cette région-là, ils ont compris ça comme ça, c'est que eux autres, les églises, sont mis ensemble puis ont financé un orphelinat. Ils existent pour les autres. Puis j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel quand on est allé, parce que on est allé là, puis on était vraiment fatigué, puis c'était dans le temps de Noël, puis il y avait quelque chose de spécial, il y avait comme une célébration de Noël. C'est que ces gens-là, là-bas, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un autobus jaune, comme je pense la Bible parle, en ont une ici, là. Il y avait un autobus jaune, là, puis à tous les samedis, ils partaient, puis ils allaient dans les quartiers défavorisés de Buenos Aires. Puis là, ils ramassaient des enfants dans la rue qui étaient là, tout seuls, abandonnés, tout ça. Puis ils remplissaient un autobus, puis ils amenaient à l'orphelinat. Puis là, il y avait des jeux, il y avait du bricolage, ils les faisaient chanter, ils leur donnaient des enseignements bibliques. Puis là, les enfants, ils se réjouissaient, puis ils fêtaient. Puis là, leurs parents, ils étaient jamais présents dans ces choses-là, puis ils voyaient jamais ça. D'ailleurs, leurs parents étaient juste pas présents. Bien souvent, toxicomanes ou quoi que ce soit. Alors donc, il y avait quelque chose qui était fait pour l'autre, par l'Église. J'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis quand ils ont fait la fête de Noël, ils ont décidé d'inviter les parents. Fait que donc, il y avait à peu près 100 personnes, puis dans la dernière rangée, il y avait les parents qui étaient là. Des parents, des gens démunis, comme je vous dis, des toxicomanes, pas trop comprendre. Puis là, pendant la réunion de Noël, ils ont passé un film. Ils ont présenté le film de ce qui se faisait le samedi quand ils amenaient leurs enfants. Fait que là, on voyait dans le film, avec une musique en arrière, là, puis c'était vraiment touchant, là. Puis on voyait des enfants qui couraient, qui étaient contents, qui riaient, qui étaient heureux, qui faisaient des bricolages, qui faisaient aller des drapeaux, qui dansaient, puis qui sautaient de joie, puis qui était assis, puis qui écoutait attentivement. On voyait les enfants qui priaient, en train de prier. Alors, on voyait Christ à l'œuvre. Puis là, j'étais impressionné parce qu'à la fin de cette cérémonie-là, il y a un homme qui a fait une espèce de prédication sur Jean 3,16. J'ai jamais vu une prédication aussi mal faite. En fait, personne n'écoutait. Les enfants occupaient les premières rangées. Nous autres, on était assis en arrière. Puis là, on voyait des enfants se lever sur leur chaise, se tourner. Ils bavaient. À morvonner, puis ils faisaient des gros babayes à leurs parents, ils tournaient le dos au prédicateur, puis les papiers qui revolent, puis ça parlait fort, puis on n'entendait pas qu'est-ce qu'ils disaient en avant. Donc, moi, je comprenais pas parce qu'ils parlaient en espagnol, là, mais je pense que les gens comprenaient pas ce qu'il disait. À un moment donné, il y a eu un moment de silence où il a demandé aux gens s'ils veulent faire un pas pour Jésus-Christ. Puis, je pense que 99 % des parents ont levé leurs mains. Vous savez pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de connaître Christ quand on le voit à l'œuvre. Tu peux essayer d'argumenter avec les meilleurs arguments du monde pour présenter la personne de Jésus-Christ, mais soyons Christ en tant qu'Église. Soyons Christ. Ma prière, en terminant, c'est que Christ prenne forme dans l'Église, la Bible parle. Et plus l'Église, plus Christ va venir prendre forme dans l'Église de la Bible parle, plus nous allons glorifier Dieu. Plus la gloire de Dieu va briller à partir d'ici. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Puis, avant de partir dans Jean 17, il a dit « Fais éclater la gloire de ton Fils, afin qu'à son tour, ton Fils fasse éclater ta gloire. » Alors, c'est une question de gloire maintenant. Courbons-nous maintenant et demandons à Dieu de prendre forme dans l'Église. Seigneur, nous sommes troublés ce matin. Nous sommes troublés ce matin de réaliser à quel point tu nous aimes. Nous sommes troublés ce matin de réaliser à quel point tu es bon. Nous aimerions, Seigneur, que toi qui es l'humanité pour l'autre, Christ, Dieu envoyé sur terre pour le salut des hommes, nous voudrions que tu prennes forme dans cette Église, Seigneur. Nous voudrions te faire toute la place. Seigneur, donne-nous de recevoir ce message comme une semence et je te prie, Seigneur, que tu puisses l'éclairer, l'arroser pour qu'elle prenne forme en nous et que nous soyons transformés à ton image. Amen.